Et nous, on va essayer de parler assez fort avec les auteurs qui m'accompagnent. Éric Maravellias, bonjour Éric.
Bonjour.
Auteur de polar aussi qui écrit à quatre mains, puisque c'est le thème de notre table ronde, écrire à quatre mains. Et on a aussi un premier couple d'écriture, Denis Soubieux et Monique de Bruxelles.
Bonjour.
Et puis un autre couple de femmes qui écrit sous le nom de Marie-Plaie Parlange. Et c'est donc Nicole Parlange.
Bonjour.
Et Dominique Plaie.
Bonjour.
Alors, première question à vous sur cette histoire d'écrire à quatre mains. Vous n'avez pas tous la même histoire. Certains écrivent tout seuls, d'autres n'écrivent que à quatre mains. Donc, un petit peu expliquer... Comment naissent ces projets d'écriture à quatre mains? Si c'est des histoires anciennes, c'est des histoires de rencontres, j'imagine.
Allez, Dominique. Je t'en prie.
Eh bien, pour Nicole et moi, ça s'est passé... Pour Nicole et moi, ça s'est... Vous entendez, là? Ça s'est passé de manière très simple, puisque nous nous connaissons depuis le collège, depuis que nous avons 12 ans, et donc l'idée d'écrire... L'idée d'écrire un roman nous est venue tout naturellement lors d'un événement pendant que nous étions en vacances à Berlin, où nous avons vu passer sur la rivière Spree qui traverse Berlin des bateaux de police, des voitures de police, des ambulances, des plongeurs sur les berges. Tout le monde plongeait. On se disait qu'ils allaient sortir plein de cadavres et plein de choses...
Très effrayante,
voilà.
Donc vous étiez adolescente, hein, c'est ça?
Non.
On était un petit peu plus qu'adolescente.
Ah bon, d'accord.
Voilà, on s'était retrouvés après avoir vécu notre vie dite d'adulte. On s'était retrouvés, les enfants élevés, on est, voilà.
Donc une histoire qui naît à Berlin.
Donc voilà,
enfin, une idée qui naît à Berlin.
Une idée qui naît à Berlin, puisque en fait tout ce qu'ils ont ressorti de la rivière, c'était un Segway, un vélo électrique, et on s'est senti tellement déçus et frustrés qu'on s'est dit, on s'est regardé toutes les deux et l'idée a jailli d'un coup de part et d'autre. On s'est dit ben on va écrire nous l'histoire et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'écrire toutes les deux. Un roman policier, et l'évidence était qu'on allait l'écrire toutes les deux ensemble.
Monique de Bruxelles et Denis Soubieux, vous écrivez, vous, par ailleurs, des nouvelles, en fait, même pas du polar en particulier, plutôt fantastique, je crois. Comment est née l'idée, puisque vous avez publié deux romans ensemble, comment est né ce projet d'écrire à deux? Nicole, peux-tu passer le micro à Monique et Denis?
Bon, ouais. En fait, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années à une soirée littéraire invitée tous les deux par Hubert Haddad, qui est un auteur qu'on aime particulièrement l'un et l'autre, une soirée littéraire à Paris. Hubert nous a présenté et on a correspondu, on s'est envoyé nos nouvelles fantastiques, et Monique, qui aime beaucoup écrire avec d'autres, qui est pas mal initiatrice de ce type de travail, m'a proposé d'écrire ensemble. Et en fait, on ne savait pas ce qu'on allait écrire. Donc, je pense que Monique pensait qu'on allait écrire une nouvelle fantastique ensemble. Bon, on a écrit sur un mode épistolaire et au bout de plusieurs mois, on avait dû...
La matière d'un livre.
Et on a recoupé les personnages et c'est devenu un polar parce qu'il y avait une disparition, parce qu'il y avait voilà.
C'est devenu donc, un polar par hasard.
Et donc, on a gardé nos personnages, on a écrit un deuxième polar et on est en train d'écrire un troisième. D'accord. Mais ce qui n'empêche que séparément, on continue à écrire de la nouvelle à tendance fantastique.
Éric, toi, tu donc il y a ton livre à toi qui est là, qui est un polar, mais par ailleurs, tu écris régulièrement à 4, voire à 16 mains, tu me disais.
Bon, effectivement, moi, mon expérience, ça a été d'abord avec 10 personnes. Donc on a écrit à 10, c'était un HLM où chacun était locataire. Et donc il s'agissait de reprendre les éléments chez les autres, à mettre nous dans notre chapitre, si vous voulez. Voilà, c'était le jeu, que ça soit cohérent, c'était vraiment super, ça m'a plu. Et ensuite, j'ai été publié donc, chez Gallimard. Et j'ai eu dans les mains le manuscrit d'un jeune auteur qui m'a plu, que j'ai fait éditer. Et comme son écriture me plaisait, qu'elle était vraiment le contraire de la mienne, c'est-à-dire assez aérée, alors que moi, j'ai une écriture plus dense, j'ai eu envie de faire un quatre mains avec lui. C'est ce que nous avons fait. Donc, il est fini là. Et puis, nous verrons bien s'ils nous l'éditeront un jour. Voilà.
Alors, un petit mot sur la façon dont on écrit à quatre mains, parce qu'on peut visualiser comment on imagine une histoire, comment on la maîtrise après, de l'intrigue à l'écriture, les personnages. Mais alors, du coup, à deux, comment ça se passe mais concrètement, hein, pour travailler à deux, écrire à deux, qui est-ce qui tient le stylo, quoi?
Il y a deux choses. Hein. Il y a des auteurs qui écrivent à quatre mains et qui cherchent à fondre leur style de façon à ce qu'on ne reconnaisse pas la personnalité de chacun. Nous, on a pris carrément l'option contraire, c'est-à-dire que c'est l'histoire de deux frères, un qui sort de prison, c'est mon chapitre, et l'autre qui est chef d'entreprise. Et donc, on marque vraiment énormément nos styles. Donc c'est ce qui nous plaît, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le chapitre avec le frère qui sort de prison, il y a vraiment un style particulier qui est à lui. Quand vous êtes avec le chef d'entreprise, voilà, et tout est au jeu. Donc c'est un double jeu. Jeu de mots qui a été fait déjà mille fois, mais voilà. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu intervenir sur cette table ronde, parce que le parti pris était de justement bien différencier les styles. Alors que je pense que pour Denis ou pour d'autres, c'est le contraire. C'est essayer d'harmoniser le style.
Alors, à aucun moment dans le roman, vous vous rencontrez dans l'écriture. Chacun écrit sa partie.
Si, bien sûr, on se rencontre. Il y a les dialogues, hein, où là, bah, c'est un choix. On les travaille ensemble, bien sûr. Mais on peut le faire en direct. Hein, se répondre comme ça. Chacun répond comme il répondrait lui-même. Parce qu'en fait, quand on a deux doubles jeux comme ça, c'est quand même beaucoup l'auteur qui est là présent. C'est pas un personnage totalement fictif. En double jeu comme ça, c'est vraiment lui, c'est vraiment moi. Donc s'il y a un dialogue, chacun répond comme il le sentirait dans cette situation.
Éric Maravellias parlait donc de fondre chacun ses styles. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti dans le travail que vous faites, Monique de Bruxelles et Denis Soubieux?
Oui, on essaye de retravailler beaucoup les parties qu'on a écrites l'un et l'autre. Et donc, je pense que ça fond un petit peu nos deux styles. Voilà.
Alors Denis, oui.
Oui. Non, en fait, je pense que Monique a un style, moi j'en ai peut-être un, mais ensemble, ça n'a rien à voir avec ce qu'écrit Monique ou ce que j'écris.
Okay. C'est la création d'un autre style.
Oui, c'est un autre style. D'abord, bon, parce que c'est le genre polar et forcément ça bouge peut-être plus que dans la nouvelle où le style est beaucoup plus serré.
Vous expliquiez tout à l'heure un peu comment vous faites. Donc vous écrivez par lettre. Alors un instant pour Denis, Nicole, excuse-moi. Simplement pour revenir sur ce que tu expliquais tout à l'heure, vous écrivez par lettre, c'est ça? Vous envoyez des lettres?
C'était le premier, parce que le premier, on est parti, c'était en vrac. Alors évidemment, quand on écrit un second polar, on sait que c'est un polar qu'on écrit, donc on essaie quand même, on a écrit un synopsis pour le second, pour le troisième, celui qui est en route là, on a un synopsis aussi, un découpage en chapitres. Mais le premier, bon, c'était, on ne savait pas ce qu'on écrivait, donc on a découvert...
Donc vous avez écrit des parties chacun comme ça, ce qui vous venait, et vous les avez confrontées.
C'est-à-dire qu'au départ, comme on habitait loin l'un de l'autre, on a écrit, enfin c'était deux personnages qui s'écrivaient. Et ça nous a paru plus facile au départ. Mais après, très vite, on s'est rendu compte qu'on n'allait pas loin comme ça. Et il a fallu changer. Et la partie épistolaire fait partie. Enfin, une partie intégrante du roman.
Oui, on le retrouve dans le roman.
Voilà. Mais non, après, on a cessé sous forme épistolaire. On a préféré un roman classique.
Okay. Nicole Parlange et Dominique Play, vous qui écrivez sous le nom de Marie Play Parlange.
Oui.
Donc, Alors on vous voit parce qu'il y a une photo quand même de vous deux sur vos,
oui,
sur vos
oui,
romans.
Oui, c'est
mais
vrai. Mais
en tout cas, vous signez
alors
d'un
nous,
seul nom.
C'est tout à fait, pour reprendre ce que disait Eric, nous, au contraire, notre but, c'est que tout soit complètement fondu. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sache pas, et d'ailleurs nous-mêmes, au bout d'un certain temps, ne savons plus qui a écrit quoi. Donc c'est assez... Donc voilà, c'est l'option exactement inverse où nous procédons chapitre par chapitre, nous en faisons la trame ensemble et chacune écrit une partie de chaque chapitre. Donc avec beaucoup de relecture et voilà, on souhaite que ce soit le plus fondu possible.
Donc vous faites l'architecture du livre, si on peut dire ça comme ça. Vous déterminez peut-être aussi des caractéristiques aux personnages.
Des personnages, etc., qu'on choisit ensemble, évidemment. Et puis ensuite, pour chaque chapitre, chacune choisit une partie. Et comme on est assez complémentaires, assez facilement, on choisit d'écrire telle ou telle partie. Et donc, il arrive aussi qu'à la relecture, on ne soit pas du tout satisfaite du travail, finalement, que chacune a fait de son côté. Et on reprend ça ensemble, donc, puisqu'on se voit quand même... on travaille évidemment par mail, etc., téléphone, mais on se voit, on essaie de se voir à peu près toutes les 5 ou 6 semaines.
Et d'où viennent, puisque vous avez écrit pas mal de romans maintenant, les...
7, oui, maintenant.
D'où viennent les idées de départ?
Alors, l'idée de départ, c'est celle que Dominique a
exprimée.
Voilà,
Berlin,
c'était donc Berlin et donc une frustration. Et puis ensuite, on a créé des personnages autour de Melinda, cette inspectrice récurrente. Et on a choisi très souvent, c'est des lieux qui nous plaisent, qui sont à l'origine donc d'une histoire. Donc, on aime beaucoup Budapest, donc on y a situé une histoire. La Chartreuse du Liget, près de Loche, on y a situé une histoire. Voilà, donc c'est très souvent les lieux qui nous inspirent pour pouvoir greffer une histoire autour de cela.
Alors, même question à vous, Monique et Denis. Qu'est-ce qui vous inspire ou qui inspire le démarrage d'une histoire ou d'un roman?
Je pense qu'on peut dire aussi que c'est des lieux, parce que le second se passe à Fontevraud. On est allé à un nombre, on a été très bien accueillis par la direction de Fontevraud, donc on a pu se balader. Et après, on a lu le maximum de choses qui concernaient l'abbaye, la partie abbaye, l'aspect religieux et aussi l'aspect prison. Donc, au fil des lectures et de la compilation de documents, je pense que l'histoire est venue petit à petit. C'est assez difficile. Au bout d'un moment, il y a des évidences. Les évidences, ça fait un peu, ça tombe du ciel. Bon. Des choses qui paraissent évidentes pour nous d'écrire un certain type d'histoire dans un lieu. Il y a des choses, quelquefois, on butait, on se disait, mais c'est pas, comment on va se sortir de cette situation? Et il y a, à force d'en causer, enfin, il y a des choses qui nous paraissaient évidentes. Enfin,
il y a des idées communes qui émergent.
Oui, alors après, évidemment, il y a beaucoup de travail derrière, mais ça, j'apprends rien.
Il y a beaucoup relecture, réécriture, disait...
Là, je pense que j'apprends rien aux collègues qui écrivent. Oui, c'est pas de l'écriture automatique avec une histoire qui est parfaite.
Est-ce qu'il y a des prises de tête, du coup, des fois, dans ces écritures à quatre mains? Parce qu'il y a des directions, quand même, il y a une direction commune à donner. Et même dans un cas comme le tien, Eric, où vous écrivez, où chacun assume sa partie, son style, il n'y a pas de négociation là-dessus. J'imagine que, quand même, la direction du roman, il faut bien qu'elle soit commune.
Bon, alors, pour écrire à quatre mains, il faut mettre de côté son égo. Ça, c'est déjà obligatoire.
Tout à fait, hein. Oui.
Alors, c'est pas facile, parce que, évidemment, l'écriture, ça vient quand même un peu de là. Et on n'aime pas trop se faire rabrouer dans tous les cas. Hein. Bon. Mais il faut faire avec, c'est obligatoire. Par contre, ce qu'il y a de formidable, c'est que d'écrire à quatre mains, ça vous ouvre des portes. C'est-à-dire, il y a des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé, vous, et que votre vis-à-vis, des idées fulgurantes, des fois, vous dites « Ah, bah merde, ouais, ça, c'est terrible ». Voilà, mais le contraire aussi, votre vidéo peut vous dire, franchement, ce que tu as fait, c'est pourri, quoi. Et ouais, et il faut pouvoir se parler comme ça aussi, il ne faut pas prendre trop de gants, pas savoir comment on va le dire à l'autre, parce qu'il va nous faire un caca nerveux sur 3 mois, c'est pas possible. Donc ça demande vraiment, alors pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de choisir la bonne personne. Ça, on n'en est jamais sûr avant, évidemment, hein, parce que des fois, les égos se dévoilent, justement, hein, pendant le travail. On croit que quelqu'un est assez humble et finalement, c'est pas du tout le cas. C'est très difficile. Je pense que le quatre mains, c'est vraiment pas facile. C'est riche, ça ouvre beaucoup de portes. En même temps, faut vraiment savoir ravaler un peu sa fierté, son orgueil, et entendre ce que dit l'autre.
Un petit mot pour rebondir là-dessus, peut-être les filles.
Oui, bah, les
vous
filles,
vous connaissez depuis longtemps, voilà, mais quand même.
On est effectivement tout à fait d'accord. Il faut mettre son ego de côté, ça c'est sûr. Et puis accepter que, comme l'autre est le premier lecteur, puisse dire ah non, là ça va pas du tout, il faut tout reprendre, etc.
Donc, est-ce que ça vous arrive de devoir justifier votre choix du coup ? Est-ce que ça vous emmène à du coup à porter un autre regard sur votre écriture, à dire mais si, j'ai fait ça parce que pour
oui,
ça ?
Oui, tout à fait. Quelquefois, on se prend un petit peu la tête en se disant bah oui, non, mais moi je veux vraiment que ce soit ça. Où ce personnage, je le sens comme ça. Et puis, bah, il faut à un moment arriver quand même à se mettre d'accord sur l'option finale, quoi. Ouais. Hein, mais ça peut être assez musclé, hein, Donc, nous, on se connaît
c'est
bien.
Bénéfique, c'est bénéfique pour l'écriture, du coup.
En tout cas, nous, oui, je pense. Et on sent que ça... Comment dire ? Ça évolue au fil des histoires qu'on écrit, ça c'est sûr. Donc, c'est pas forcément plus simple, mais je pense qu'on sent les choses peut-être de plus en plus de la même manière. Voilà. Donc, mais bon, c'est vrai que cet ego, il faut le mettre de côté, ça c'est certain.
Moi, je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup plus facile d'écrire à quatre mains.
C'est plus facile ?
Oui, pour moi, oui, parce qu'on a le retour tout de suite. Ouais.
Donc on a un regard, on a un effet miroir sur son écriture rapidement.
Voilà, et ça nous booste et on a envie d'aller plus loin, on a envie d'étonner l'autre. Et je trouve que c'est très enrichissant et que c'est beaucoup plus facile à deux.
Pareil, Denis, par rapport à l'écriture en solitaire, l'écriture à deux.
Oui, c'est vrai, ce que dit Monique, c'est que ça booste vraiment. C'est-à-dire, quand on a un projet d'écriture, moi, par exemple, quand j'écris des nouvelles, je peux mettre 2 ans à terminer une nouvelle de 10 pages. Enfin, bon, ça, c'est...
Feignant, quoi.
Mais je peux en avoir 5 ou 6 en route. Mais bon,
non, mais,
sur un roman, quelquefois, il y a de la lassitude qu'on peut ressentir en même temps, tous les deux. Mais on se rebooste, on dit, bon, quand même, c'est pas complètement nul l'idée qu'on a. Ça vaut peut-être le coup de poursuivre. Mais tout seul,
tout seul, c'est pas facile de se motiver.
Je verrai demain, la semaine prochaine ou un autre jour. Bon, voilà. Mais à deux, bon, on se relance.
Et alors, Nicole, toi, tu n'as pas fait comme Monique et Denis qui écrivaient chacun de leur côté et puis qui écrivent à deux maintenant. C'est l'inverse.
Oui,
donc,
c'est l'inverse. T'as commencé avec Dominique. Moi, je suis partie d'une écriture commune, donc à deux, sur des polars, donc un style et un genre littéraire bien précis. Et effectivement, j'ai écrit seule un bouquin qui s'appelle Madeleine ou la parole volée autour de... Voilà, d'une grand-mère qui a une vie assez spéciale.
Assez spéciale, oui.
Tout à fait.
Donc, qui n'est pas du tout du genre polar.
Ah, pas du tout, non.
Et autre chose.
C'est tout à fait, c'est une façon de lui rendre hommage et de lui redonner la parole, surtout, puisque, bon, elle a passé, comme Camille Claudel, la moitié de sa vie dans un hôpital psychiatrique, à une période où on ne savait pas du tout soigner, justement, les dépressions. Et j'ai voulu, vraiment... dire qu'elle avait été aussi une petite fille, une jeune femme, une jeune mère, et que pendant 40 ans, elle avait eu une vie normale. Donc,
et qu'est-ce que tu as constaté du travail, du coup, en solitaire, comparativement à ce travail en duo ?
Je suis assez d'accord avec Monique et Denis. C'est vrai que le fait d'écrire à deux est plutôt un avantage, hein, parce que ça booste et on avance aussi au rythme de l'autre. Donc là... Il faut s'astreindre, enfin, en tout cas pour moi, une certaine discipline pour arriver au bout de ce qu'on a envie de faire. Mmh. Et voilà, on est dans un autre rythme, je dirais, dans un autre rythme, qui est le sien. Donc on peut écrire, moi j'aime bien ce regard de l'autre aussi qui me booste, donc c'est vraiment ça.
Alors, à moins que quelqu'un ait quelque chose à ajouter, je proposerais simplement, pour finir, de vous donner la parole pour nous donner votre actualité. Puis peut-être, justement, s'il y a des romans à sortir, un petit peu leur nom, ou peut-être où on peut les trouver.
Moi, j'ai un seul roman à mon actif qui n'est pas un roman, qui est une biographie à 80%, qui est sorti à la série noire chez Gallimard, qui vient de sortir en poche chez Folio. Donc voilà, c'est l'histoire de l'arrivée de l'héroïne dans la banlieue parisienne au début des années 80, de la descente aux enfers de cette génération de jeunes de 15-16 ans qui ne connaissaient rien aux drogues. Hein. Faut dire, l'héroïne, le shit, l'herbe, c'était la même chose. Et l'arrivée du sida par-dessus. Donc c'est ce que je raconte. C'est-à-dire des années 80 à 99. Ensuite, je viens de finir un deuxième livre qui est entre les mains de l'ancien directeur de la série noire, Reynal. Puisque moi, personnellement, je ne ressortirai pas de livre à la série noire. Donc voilà, ce manuscrit entre les mains de l'ancien directeur de collection de la série noire, ce qui me plaît assez, justement, que ça soit dans ses mains à lui, qui n'est plus à la série noire. Voilà.
Mais pardon, Eric, il n'y a pas de projet précis ou de date de publication. Là, c'est en négociation.
Là, je viens de le terminer. Donc, Reynal est emballé. On va retravailler ensemble et puis on verra où il sera publié et comment. Ça s'appelle Utopie. Voilà, je n'en dirai pas plus.
Merci, Eric Maravellias. Pareille nouveauté à sortir.
Bon, là, on a un troisième polar en cours d'écriture, mais bon, c'est vrai que l'an dernier, enfin, Monique a publié 3 recueils de nouvelles chez Rue des Promenades, qui sont des beaux recueils, bon, qui n'ont pas leur place ici parce qu'on est dans un salon du polar. Moi-même, j'ai publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Cinoche, édition Chum, mais sinon, d'actualité, on est en train d'écrire un troisième polar ensemble. Et les deux premiers, bon, le premier s'appelle Enquête sur un crapaud de lune et le second Meurtre à Fontevraud. Et donc c'est sur deux registres différents. C'est-à-dire qu'on écrit à chaque fois de façon différente. On n'a pas envie de réécrire avec la même ambiance, le même style narratif, etc. Alors autant le premier est convivial, plutôt sur les bases nostalgiques. Le second est un peu plus dans les clous d'un polar classique, donc un peu plus dur, dans une époque qui ressemble beaucoup à la nôtre, c'est-à-dire qui est bien dégradée. Ça se passe à Fontevraud, il n'y a plus de ministère de la Culture, les monuments historiques ne sont plus entretenus, et il y a une association locale qui rame pour... Et comme nos personnages récurrents sont des musiciens, on retrouve à Fontevraud le batteur qu'on avait rencontré dans le premier, qui vient jouer dans un festival, et forcément, il y a un meurtre qui se passe. Et donc le troisième est parti pour se passer dans les Mauges, dans la vallée de... dans une scope agraire. Enfin, il ne faut pas en dire trop parce que voilà. Déjà, on ne sait pas. Date de fin d'écriture, peut-être avant. Je ne sais pas. Il n'y a pas de date.
Du côté, vous avez un micro ? Du côté de Marie Plaît Parlange, Nicole et Dominique.
Alors, notre actualité. Donc, après avoir écrit plusieurs romans avec une inspectrice récurrente,
Mélinda Field,
voilà. Donc, les premiers romans se situaient bien dans notre époque. Après, on a continué avec une trilogie dont chaque volume se situait sur deux époques différentes. Une époque historique dans le passé et l'époque actuelle. Les deux époques se rejoignant, bien sûr, à la fin de chaque livre. Et maintenant, nous nous sommes lancés dans une tétralogie qui sera, bien sûr, constituée de 4 romans entièrement historiques.
Et le premier vient de sortir.
Dont le premier vient de sortir.
Qu'on peut trouver ici.
Qu'on peut trouver ici. Le titre générique, c'est Les Tétras Nébreuses. Et le premier s'appelle Agnès Sorel, puisque l'histoire se passe autour d'Agnès Sorel.
Au 16e siècle.
Plutôt au 15e siècle.
Au 15e voilà. Siècle.
Voilà, et on a lancé les bases d'un deuxième roman dont on ne
on peut donner quelques on peut pitcher comme on dit un peu le premier Tétras Nébreuses, Agnès Sorel.
Alors en fait, c'est
poursuivi par
ça, alors oui.
Voilà, on parle de sa elle a une cousine qui a réellement existé qui s'appelle Antoinette de Maignelet. Et donc, nous lui avons créé une deuxième cousine qui s'appelle Colombe de Maignelet. Et c'est autour de cette noire colombe que va se dérouler l'histoire donc,
de ce polar.
On va voir les effets pervers de cette cousine tout au long de l'histoire.
Donc, un personnage fictif dans une histoire réelle.
Tout à fait. Voilà, avec, exactement. Et tous les éléments historiques sont vrais.
Tous les éléments historiques sont vrais. Merci à vous cinq pour cette table ronde. Merci au public qui s'est rapproché. On essaiera peut-être de sonoriser cet après-midi. Ce sera plus pratique pour vous. Quant à nous, pour le plateau radio, on fait une pause musicale et puis on se retrouve avec d'autres auteurs pour continuer cette journée au Salon Polar sur Loire. Salle au Queue Game, place du Châteauneuf, c'est jusqu'à 19h.